de Saint Jean au chapitre 4 et on arrive avec le livre suivant, c'est l'Apocalypse, donc on est vraiment à la toute fin de la Bible. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. C'est trois tout petits mots hein, qu'on connaît par cœur. D'ailleurs, je pense qu'on fait un sondage dans la rue, on demande « Mais Dieu, c'est qui pour vous ?» etc. On va avoir quand même de bonnes chances pour qu'on ait quand même une réponse avec « Dieu est amour ». Et les gens ne se rendent pas compte de la bombe nucléaire que c'est cette histoire. Parce que le seul livre, le seul endroit, le seul lieu où on trouve cette information, c'est dans ce livre-là. Vous allez en Chine et vous faites un sondage, on vous demande qui c'est Dieu. Ils vous répondront plein de choses, mais ils ne vous comprendront pas, Dieu est amour. C'est une originalité chrétienne, absolument originale. Il n'y a pas d'autre exemple sur la Terre d'une religion qui affirme Dieu est amour. Il y a d'autres religions qui vont affirmer que Dieu est bon, que Dieu est compatissant, que Dieu est tendre, que Dieu même fait miséricorde. Certains iront même jusqu'à dire Dieu a de l'amour. Mais avoir de l'amour, c'est une qualité. Celui qui a de l'amour, il en donne, et puis il en reprend. Et puis lui, il l'aime pas. Mais lui, voilà. Quand on dit Dieu est amour, ça implique que dans son être même, Dieu aime, c'est absolument synonyme, et que aimer, eh bien, Dieu ne sait faire que ça, il aime. Alors posons-nous la question quelques instants, qu'est-ce que c'est que aimer ? Aimer, moi la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est aimer, c'est vouloir la joie et le bonheur de l'autre, et prendre les moyens pour ça. Ce qui donc du coup nous différencie clairement de être amoureux. Aimer, c'est un acte, de la volonté. Je décide d'aimer. Et je peux aimer celui qui ne m'attire pas. Je peux aimer mon ennemi. C'est ce que dit Jésus. C'est un commandement que nous donne Jésus. Aimer. Donc aimer, un acte de la volonté, une décision de ma part. Je me mets au service de la joie et du bonheur de l'autre. C'est aussi, hein, ça implique le recevoir tel qu'il est, accueillir et accepter son amour. Dieu est amour. Et si le christianisme est le seul lieu où on peut affirmer que Dieu est amour, c'est parce que lorsqu'on dit cela, il y a une pierre d'achoppement. Pour les religions dans le monde, soit Dieu n'est pas vraiment une personne, c'est une force impersonnelle, et donc dans ce cas-là, il ne peut pas être amour, parce que ça implique un amour, ça implique un jeu. Donc pour les panthéistes, où tout est Dieu, eh ben, le tout, il ne dit pas je. Donc il ne peut pas être amour. Pour les monothéistes absolus, celui qui pense que Dieu est absolument unique, mais tel un roc dans lequel il n'y a pas d'espace, eh bien, il a un souci avec Dieu est amour, parce que si Dieu aime, ça veut dire qu'avant qu'il y ait autre chose que Dieu, avant toute création, Dieu était seul. Et s'il était seul et qu'il est amour, il s'aime lui-même. Et s'il s'aime lui-même, comme il est objet parfait, eh bien, il tombe dans une forme d'égocentrisme, d'égoïsme, qui ne laisse plus de place à la création. Or, il y a une création. Donc, Dieu n'est pas amour. C'est pour ça que, chez les Juifs, il y a nulle part dit que Dieu n'est pas amour, mais il y a nulle part dit qu'il est amour. C'est pour ça que chez les musulmans, on écarte l'idée de Dieu est amour. Non, c'est pas possible. Parce que s'il est amour, vu qu'il est absolument unique, eh bien, il y a pas. Ça implique qu'il s'est aimé lui-même tout seul. Bon, ça marche pas, quoi. Dieu est amour, ce n'est acceptable que grâce à la révélation du Christ. Jésus dit : le Père m'aime, j'aime le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc il affirme l'unité de Dieu et il dit en même temps : et on est deux. Et même plus, il va dire : on est trois. Et là, bon, et là on fait « yes voilà. !» Mais en fait, dire « Dieu Trinité », c'est le moyen conceptuel de rendre compte que Dieu est amour. S'il n'était pas Trinité, il ne pourrait pas être amour. Il pourrait avoir la limite de l'amour, il pourrait donner un petit peu de lui-même, mais il ne pourrait pas se donner tout entier. Alors, il y a quelque temps, avec une messe de l'équipe 5, d'ailleurs, j'avais parlé du Hans Spinner, là.
Oui.
De fait. Et c'est ça, cette idée, c'est le Père tout entier se donne. Et le Père, il est tout Dieu. Et donc, quand il se donne tout entier, bah, il donne tout Dieu, il se donne tout lui-même. Et comme il est Dieu, eh bien, ce don même, ça engendre, c'est le terme technique, ça engendre le Fils. Et le Père a tout donné. Et donc, le Fils, bah, il a tout reçu. Il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. C'est le même être. Et en même temps, il y a une distinction. C'est que le Père, il donne et que le Fils reçoit. Et le cadeau que le Père fait au Fils, c'est encore une fois tout Dieu. Il n'y a aucune différence entre Père, Fils et ce cadeau. Et ce cadeau, on l'appelle Esprit Saint. Ou pur amour. Il y a plein de noms. Et on dit que le terme technique, c'est qu'il procède. Et là, on reconnaît dans le credo, hein, je crois dans Dieu. Il procède, tout à fait. Alors, l'avantage, c'est que parfois, on utilise des mots, on ne voit pas bien ce qu'il veut dire, mais procéder du Père, on ne voit pas ce que ça veut dire. Ça signifie, ben, c'est le truc tout particulier qu'il y a entre le Père et l'Esprit, qui fait que le Père et l'Esprit, c'est exactement le même être, et en même temps, l'un donne et l'autre est donné. Et le Fils, lui, reçoit. Et donc ça, c'est Dieu tel qu'on peut le contempler, découvrir, d'après ce que nous dit la Bible. Et forcément, Dieu aime, et c'est sa joie. Ben, il est parfaitement ouais, il fait ce qu'il a à faire, je dirais. C'est une joie absolue qu'il éprouve. Et par le fait même qu'il est Père et Fils et Saint-Esprit, donc il y a un mouvement permanent, ça lui laisse la place pour sortir de lui-même. Parce qu'en fait, en permanence, il est dans un mouvement de « je donne, je reçois, je suis donné ». Et donc, il y a une sortie permanente de Dieu en Dieu. Et Dieu a souhaité, dans son projet, c'est que d'autres puissent profiter de sa joie. Et pour ça, il crée. Il crée des êtres qui ont... Alors, on va aller à la page 2 de la Bible. Page 2, on est au chapitre 1... Forcément, il y a plein d'intros. Voilà. Il y a plein d'intros. Et donc, au chapitre 1, au verset 27, vous le connaissez déjà. Hein. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est amour et il crée l'homme à son image. Nous sommes conçus, faits, pour être amour. Et ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Dieu nous a fait à son image, il nous a fait pour que nous nous donnions et que nous trouvions notre joie dans le don. Il nous a fait pour que nous recevions et que nous trouvions notre joie dans la réception. Il a même fait pour que, parce que Père, Fils, et il a même fait pour que nous soyons nous-mêmes un cadeau donné par un à un autre et que nous trouvions dans notre joie à être ce cadeau. Dieu créa l'homme, ou l'être humain en hébreu, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, et il les créa homme et femme, ou mâle et femelle. Le fait là, et le, de fait, ça c'est le, cette distinction ou cette différenciation entre les sexes, c'est le lieu, c'est un lieu de l'image de Dieu. Au point qu'on ira même jusqu'à dire que dans tous les amours humains qui sont des reflets de l'amour de Dieu, l'amour le plus parfait, le plus complet des amours humains, c'est, parce qu'il est le plus ressemblant à l'amour de Dieu, c'est l'amour qui unit un homme et une femme. Qui s'engage l'un envers l'autre, voilà, qui décide d'aimer comme Dieu aime. Ça, c'est le cœur de notre foi. Dieu Trinité. Dieu Trinité, Dieu Amour, qui nous fait à son image. Ça, c'est le premier pilier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, et nous sommes invités à aimer comme Dieu aime. Et vous connaissez les quatre dimensions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour libre. Il n'est contraint par rien pour nous aimer. Il veut juste notre joie et notre bonheur. Il nous crée pour la joie et le bonheur. Il nous fait pour ça. Il pourrait ne pas nous créer, mais il le fait parce qu'il veut notre joie. L'amour de Dieu est un amour de toujours à toujours. Dieu est. En fait, nous, on a une petite tendance à temporaliser Dieu. On le fait rentrer dans le temps. Or, mais Dieu est. Le temps, c'est une création de Dieu. Ça fume, c'est normal. Mais Dieu est. Voilà, c'est ça. Dieu est et Dieu aime, c'est synonyme. Et ce Dieu qui est, ce Dieu, voilà, ben il aime. Donc de toujours à toujours, avant que nous on soit, il était déjà dans son projet. Et on sera toujours dans son projet. Et Dieu nous crée en permanence, d'ailleurs, parce qu'il nous a voulu quand on est né, quand la terre a été créée, etc. Mais en plus, s'il arrêtait de penser notre existence, eh ben, on n'aurait plus d'existence. Donc, il continue à nous aimer à fond, quoi. L'amour de Dieu de toujours à toujours. L'amour de Dieu, c'est un amour fidèle. Mais d'une fidélité, on n'imagine même pas. Hein. L'amour de Dieu, c'est un amour fidèle. Fidèle au point que lorsqu'il y a un prophète qui s'appelle Osée. Et Osée, c'est un prophète un peu étonnant. Il a été chargé par Dieu de témoigner de l'amour de Dieu dans sa vie. Et Dieu lui a dit, je veux que tu épouses Gomer. Gomer, c'est une prostituée de luxe, mais une prostituée quand même. Voilà. Et donc Osée va rencontrer Gomer, et il tombe amoureux de Gomer. Alors il épouse Gomer, et ils ont 3 enfants. Et Gomer, au bout d'un moment, elle s'ennuie, donc elle décide de lâcher Osée et de retourner à ses pratiques précédentes. Donc Osée, il est désespéré. Et là, Dieu lui dit, je veux que tu retrouves Gomer, que tu ailles à nouveau la séduire. Moi aussi, je prendrai, j'irai, je viendrai vous séduire. En fait, Dieu, dans ce texte d'Osée, vient signifier que c'est comme ça qu'il nous aime. On n'arrête pas de le trahir. Mais lui, sans cesse, est à notre recherche et à notre rencontre. Il est fidèle, même quand on a décidé d'aller le... Quand on, fait, oula, on l'envoie se faire voir. Et l'amour de Dieu, bah, c'est un amour fécond. On voit ceux qui ont un peu fait de la préparation au mariage. Là. C'est un amour qui donne la vie. Et donc qui donne... Qu'est-ce que c'est que la vie, le plus au plus profond? C'est la capacité d'aimer. Voilà, et là, on a un deuxième aspect, on va dire, qui dépend de ce Dieu Trinité, qui est un Dieu d'amour, qui crée. Et puis on va arriver sur le deuxième pilier de notre foi. Et ce sera la fin de l'exposé. Mais il faut un petit préalable. Quand on arrive au chapitre 2... On a une deuxième vision de la création du monde. Et puis on arrive le chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Chapitre 2, Dieu dit, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc déjà, Dieu n'a pas dit ce que propose l'ange. Alors, La femme répond au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'a pas parlé du milieu du jardin, mais bon, c'est pas grave. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Le toucher, c'est déjà un peu plus. Sinon, vous mourrez. C'est très intéressant parce que Dieu a dit d'une certaine manière, la première fois, il lui dit, tu n'en mangeras, tu mettras pas les doigts dans la prise parce que ça va te faire mal. Et elle, elle traduit, tu mettras pas les doigts dans la prise, sinon je vous ferai mal. Interprétation de même, bon, voilà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Oui, le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Connaissant le bien et le mal. Et là, fantastique. Dieu nous a créés à son image. On est déjà comme des... Ils sont déjà comme des dieux. Ils sont comme Dieu. Et le serpent leur propose d'être comme des dieux. La gueule de la promesse, c'est un peu frelaté quand même. Et pourtant, bah elle marche. Hein. Elle s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. C'est intéressant, on voit les étapes de la tentation. Hein. Elle y rentre peut-être. Elle entre en tentation. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent à tous deux, ils virent qu'ils étaient nus et ils se couvrirent. Ils étaient dans une unité parfaite, l'un et l'autre. Ils s'étaient exclamés peu avant, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. C'est pour dire la proximité. En hébreu, Ish et Isha, c'est homme et femme. C'est le même mot, quoi. On rajoute juste une voyelle pour le signifier. Donc déjà, ils voient qu'ils sont nus et ça les sépare. Il faut qu'ils se couvrent. Ils entendent la voix du Seigneur qui se promène dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme vont se cacher. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Le pape Jean-Paul II a une page magnifique sur ce « Où es-tu » de Dieu, qui depuis toute éternité nous appelle « Où es-tu ? Je veux ta joie et ton bonheur. Où es-tu ? Viens !» Et l'homme répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc la rupture, non seulement ils ont été obligés de s'isoler l'un de l'autre, mais la rupture avec Dieu. « Je me suis caché, je t'ai craint, j'ai eu peur de toi. » Et l'homme et la femme, le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger du fruit. » Et j'en ai mangé. Oui, il admet quand même qu'il est un petit peu responsable. Donc la rupture entre... c'est pas moi, c'est elle. Le gouffre qui se crée entre eux. Le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là ? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Le serpent m'a trompé, donc là encore, la rupture avec la création. Et du coup, Dieu énonce après les conséquences. Vous avez mis les doigts dans la prise, et bah oui, c'est normal, vous avez la décharge d'électricité, et puis il va y avoir un certain nombre de choses. Des conséquences. Pas des punitions. Une conséquence. Pour autant, c'est une conséquence que Dieu permet. Il permet que ces malheurs vont nous tomber sur la tronche, et Dieu ne va pas mettre sa main en disant oh, « Non, mais c'est pas grave. » Non, il nous laisse aller jusqu'au bout de notre liberté. Ces conséquences, on va les éprouver dans notre chair. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut que nous l'aimions. Son projet, c'est que nous l'aimions lui, parce que c'est notre joie. Il veut que nous l'aimions, et que, vraiment, c'est-à-dire en liberté. Il est pour nous un père, pas un babysitter. Le babysitter, son projet, c'est d'empêcher tout problème. Le père, il est là, pas pour empêcher tout problème, il est là pour permettre à l'enfant de passer à travers les problèmes, de surmonter les problèmes. Très mauvaise éducation que d'essayer d'éviter tout problème à ses enfants. Il faut de temps en temps que les enfants se fassent mal sur un caillou en essayant de le croquer. Parce que le mode de transmission d'expérience, en fait, il y a des moments où il faut que l'expérience soit faite. Et donc on a cette rupture, et donc voilà que l'homme, il, du coup, est loin de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle un péché, rupture de l'amour. C'est ça un péché. C'est quand le lien, le don mutuel n'est plus possible. Alors, à la différence des protestants qui pensent que l'amour n'est plus possible du tout, que c'est foutu, les catholiques affirment, nous affirmons, que notre capacité d'aimer est blessée. Elle n'est pas détruite. Donc, le désir d'aimer est toujours en nous. Donc, on est quand même capable de tendre de tisser des liens, même quand on n'a aucune connaissance de la réalité de Dieu. Pour autant, c'est blessé, donc c'est difficile. Et on le voit, hein, on n'a pas besoin de chercher bien loin pour se rendre compte qu'en nous, quelque part, il y a des choses qui tirent pas dans la direction de l'amour. Et on le voit au chapitre 4, hein, Caïn et Abel. Deux frères, les deux premiers frères de la ville. Poum, il y en a un qui tue l'autre. Et Dieu ne se lasse pas, il vient à notre rencontre, on va avoir le récit d'Abraham, on va avoir le récit de Jacob, on va avoir le récit de Joseph. On va être en Égypte, on va avoir un certain... Dieu donne des lois. En hébreu, le mot loi, ça signifie, ça se dit parole. Tavar. Parole. On connaît les 10 commandements. Bon, on sait peut-être aussi qu'il y en a 613 au total des commandements. Tous ne sont non pas la même valeur, évidemment. On va dire les 10 premiers, on les trouve à peu près dans la liste des 10 commandements, mais il y en a 2-3 autres très importants qui se trouvent ailleurs. Et c'est intéressant de voir ces 10 commandements, 10 paroles. On les retrouve aussi, 10 paroles, c'est les 10 paroles de création. Dieu dit que la lumière soit. Ce mot Dieu dit apparaît 10 fois. C'est des paroles qui donnent la vie. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, c'est pour nous donner la vie. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, c'est pour nous donner la vie. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, c'est pour nous donner la vie. Voilà, ces commandements, bon, le problème des commandements, c'est que si on les réintégrait bien dans notre cœur, bah, ça avance. Si on les reçoit comme une loi extérieure, c'est vite insupportable. Et donc, les auteurs bibliques, puis Dieu va nous apprendre, va nous révéler que cette loi qui nous est donnée sur des tables de pierre, il souhaite nous la faire entrer dans le cœur. On a un passage en particulier dans Jérémie, au chapitre 31, verset 31. Jérémie 33:10. Voilà. Voici venir des jours, parole du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. C'était une loi sur table de pierre, ça devient une loi dans mon cœur. Elle devient quelque chose qui m'appartient. En fait. Voilà. Alors par contre, j'ai oublié la référence, mais dans Ézéchiel, on a un passage à peu près équivalent. Mais c'est ce passage où il dit « J'ai vu l'eau sortir j'ai vu l'eau vive, hein, sortir du côté droit du temple. » Et en fait, quand je chante « J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ », on cite Ézéchiel. Et en fait, Ézéchiel nous dit « Je vous donnerai une eau pure qui fera que je pourrai changer votre cœur de pierre contre un cœur de chair. » Et toute la tradition catholique, voilà, chrétienne même, voilà l'annonce du Saint-Esprit. Dieu veut venir habiter en nous. Et c'est lui qui nous transforme et nous modèle un cœur neuf. Voilà, mais tout ça, beaucoup de paroles, on se rend compte que plus on avance, plus le peuple d'Israël est dans le malheur, plus c'est compliqué. Les prophètes, ils s'expriment entre, pour le plus ancien, 750 avant Jésus-Christ, et pour le plus récent, 250 avant Jésus-Christ. Les prophètes, plus on avance, plus c'est pire. Ils annoncent des catastrophes épouvantables, et chaque fois ils disent « Mais convertissez-vous !» Et que ce soit dans la relation à Dieu, mais c'est aussi vrai dans la relation aux frères, dans la relation aux autres. Voilà, un scandale, là, j'ai Miché qui s'exclame en disant « Les chefs jugent pour un cadeau, les prêtres enseignent pour un salaire, les prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. » Ils se font payer pour rendre des services. des services qu'ils devraient donner gratuitement, parce qu'ils ont reçu, ils en ont reçu gratuitement. Il y a des passages, voilà. Et puis, est annoncé quand même, depuis le début, un Messie. Quelqu'un qui va nous permettre, qui sera pleinement Messie, donc huilé, choisi par Dieu, il sera pleinement prêtre, donc il porte le monde dans sa prière, prophète, il proclame la parole de Dieu, il en vit, il en témoigne, roi, il est au service de, du peuple. Et ce Messie, on va arriver, mais il va y avoir des débats. Certains diront c'est surtout un prêtre, d'autres c'est surtout un prophète, d'autres qui diront c'est surtout un roi. Et va arriver Jésus, qui est le Messie, et qui se présente comme tel. On a ce chapitre 4 de la, du chapitre de Saint-Luc, qui est un texte hyper connu, que vous connaissez tous, vous avez tous déjà entendu, que je vais vous citer à peu près exactement. Parce que... On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvre le livre, trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Onction, c'est huile, donc Messie, le mot vient là. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable au nom du Seigneur. Jésus referme le livre, le rend au servant, s'assoit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. La première et la plus courte homélie de l'histoire. Et voilà le deuxième pilier de notre foi, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils, son Dieu même, Dieu-Fils, est venu s'incarner comme un homme au milieu de nous. Et comme il est homme, il est donc... On le retrouve dans l'arbre généalogique, hein, on est cousin avec Jésus. Tôt ou tard. Et donc, pour lui, le lien de famille, c'est un vrai lien de famille. Du coup, lui dit en vérité, mon Père est Dieu, et il nous permet de dire avec lui, mon Père est Dieu. C'est plus le lien que j'ai grâce au Christ avec le Père, et... autrement plus intime que le lien que j'ai avec Dieu comme créateur. Et c'est peut-être une différence essentielle qu'on va trouver entre l'islam et le christianisme, justement. Parce que l'islam, Dieu n'est que créateur, donc il reste quand même vachement loin, alors que nous, c'est un père. Et puis, sans les limites et les faiblesses humaines, quand même. C'est pas... Et on va arriver jusqu'à ce que, et je dirais c'est là que se noue l'ensemble, c'est ce qui va se passer, il suffit que je cherche, Jésus l'a annoncé trois fois, Jésus commença, c'est juste après la transfiguration. Pardon, juste avant. C'est juste avant la transfiguration. À partir de ce moment, alors que Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. C'est dans cette chose insensée qu'est la souffrance et la mort. Le Christ va aimer au point de nous faire ressusciter avec lui. Dieu n'est toujours pas un babysitter, Dieu n'est pas non plus un Superman. Le Christ n'est pas Superman qui nous empêche, qui sortirait son bouclier et nous protégerait de l'attaque des, je sais pas quoi, de Lex Luthor. Non. Le Christ, lui, il vient souffrir avec nous. C'est comme ça qu'il a décidé de nous sauver. Alors, c'est pas confortable. Hein. Et il enchaîne. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà, et donc on a vu là les deux piliers de notre foi, que l'on résume de façon résumée, dans le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu tout entier, qui est de toujours à toujours, et dans un signe qui est celui de la croix, le supplice le plus abominable qu'il soit, mais qui est cet amour de Dieu donné à nous, dont on peut profiter, qu'il nous faut accueillir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Notre Père.